Vous écoutez On lit pour vous.
L'histoire du chat domestique réécrite. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 février 2026 dans La Presse. L'Égypte des pharaons momifiait des chats et vénérait des divinités félines. La plupart des biologistes estiment donc que les Égyptiens avaient domestiqué cet animal, tout comme les agriculteurs anatoliens, il y a 10 000 ans. Mais, selon des paléontologues italiens, Minou est entré dans les maisons européennes beaucoup plus tard, il y a 2000 ans. On pensait que le chat domestique était arrivé en Europe il y a près de 5000 ans, avec les premiers agriculteurs originaires d'Anatolie et du Moyen-Orient, explique Marco De Martino de l'Université de Rome, Tor Vergata, co-auteur d'une étude publiée fin novembre 2025 dans la prestigieuse revue Science. Mais les dépouilles de chats domestiques trouvées en Europe montrent qu'ils y seraient arrivés il y a 2000 ans. Et l'ancêtre du chat domestique européen était un chat sauvage originaire du Maghreb. Avec son patron, Claudio Ottoni, M. De Martino a analysé la génétique de 70 chats trouvés sur des sites archéologiques datant d'aussi loin qu'il y a 11 000 ans et de 17 chats sauvages modernes ou reposant dans des musées. De nombreuses momies de chats datant de l'époque des pharaons, il y a 3 000 à 4 000 ans, ont été trouvées en Égypte, où on vouait aussi un culte à une divinité à visage félin, Bastet. Il y a des centaines de momies de chats datant de l'Égypte pharaonique, ce qui semble indiquer que le chat sauvage avait alors été domestiqué, dit M. De Martino. Mais jusqu'à maintenant, nous n'en avons pas encore trouvé qui donne un ADN d'assez bonne qualité pour l'analyse génétique. Le chat au fil des ans. Or, on sait que le chat domestique européen n'est pas venu de l'Égypte, mais du Maghreb. Différentes hypothèses sont étudiées. Le chat domestique égyptien de l'époque des pharaons a peut-être été exporté vers le Maghreb, où les Romains l'ont découvert et introduit en Europe. Ou alors, ce sont d'autres chats sauvages que ceux d'Égypte qui auraient été domestiqués au Maghreb, d'où ils ont ensuite fait le voyage jusqu'en Europe. Carthage. Autre possibilité, le chat domestique égyptien aurait migré vers le Proche-Orient, ce qui expliquerait la présence de divinités félines phéniciennes dans la région qui est aujourd'hui le Liban. Puis, quand les Phéniciens sont allés vers ce qui est aujourd'hui la Tunisie, pour fonder la colonie de Carthage au 9e siècle avant Jésus-Christ, ils auraient emmené leurs chats domestiques. Et ce sont ces chats qui aurait ensuite été introduit en Europe par les Romains. Pour tirer l'affaire au clair, Marco De Martino veut trouver une momie de chat pharaonique ayant de l'ADN utilisable. « Nous avons quelques candidats potentiels, » dit-il. « Nous pourrions aussi essayer de mieux définir l'aire géographique où vivaient les chats sauvages du Maghreb avant d'être domestiqués. » La présence de chats sauvages qui sont cousins des félins maghrébins en Sardaigne à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ complique l'histoire. On ne sait pas trop comment ces chats sauvages sardes font partie de l'histoire du chat domestique. À vous, M. De Martino. Chypre. Autre mystère, une dépouille de chat trouvée il y a plus de 20 ans à Chypre, enterrée avec un humain dans une tombe d'il y a 9500 ans. Encore là, il n'a pas été possible d'en extraire de l'ADN utilisable pour savoir si c'était un chat domestique et, si c'était le cas, pour identifier quel type de chat sauvage était son ancêtre. Cette momie chypriote a alimenté l'hypothèse selon laquelle le chat aurait été domestiqué par les premiers fermiers en Anatolie, dans le croissant fertile, qu'ils auraient emmené avec eux en Europe lors de leur migration il y a 6000 à 5000 ans. Les chats sauvages européens et d'Anatolie sont distincts des chats sauvages du Maghreb. On pense que le chat a été domestiqué pour éloigner les rats des silos à grains. Mais les premiers fermiers anatoliens chassaient peut-être les chats sauvages pour leur fourrure et pour s'en nourrir, dit M. Demartino. Le Maghreb et l'Égypte étaient, il y a 2000 ans, le grenier à blé de l'Empire romain. En 2025, une étude publiée dans la revue American Archaeology a conclu que les premiers chats domestiques des Amériques étaient arrivés à Hispaniola, l'île où se trouvent Haïti et la République dominicaine, avec les voyages de Christophe Colomb, 1492 à 1504, puis aux États-Unis, dans la colonie britannique de Jamestown, en Virginie, en 1607. Quant à l'Asie, son plus ancien chat domestique connu date du 7e siècle, en Chine, et est d'origine européenne, selon une étude chinoise publiée l'an dernier sur le site de prépublication BioArXiv. Il semble qu'avant leur domestication en Europe, des chats sauvages appelés chats léopards fréquentaient les villages, dit M. Demartino. Mais c'était du commensalisme. Les chats vivaient aux côtés des humains, mais pas dans leur maison. C'est probablement arrivé en Europe aussi avec des chats sauvages. On ne voit plus de squelettes de chats sauvages dans les sites archéologiques chinois datant d'après le 7e siècle. Pourquoi étudier le chat? Parce que c'est un animal qui a une relation unique avec l'humain, répond le chercheur. À part chasser les souris, il n'a pas d'autre utilité que la compagnie. En savoir plus, source Statistique Canada. 21% proportion des foyers canadiens ayant au moins un chat. 9% proportion des foyers canadiens ayant deux chats ou plus. 45% proportion des chats domestiques dans les villes canadiennes qui sortent à l'extérieur. C'était l'histoire du chat domestique réécrite. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 février 2026 dans La Presse.
Mieux se comprendre entre personnes sourdes et policiers. Un texte de Jessica Nadeau, publié le 23 mars 2026 dans Le Devoir. Depuis plusieurs années, le travail des policiers évolue pour tenter de répondre à différents besoins et aux nouvelles réalités du terrain. Le Devoir vous présente trois initiatives du service de police de la Ville de Montréal, portées par son directeur Fadi Daguerre. Aujourd'hui, une collaboration avec un organisme communautaire pour mieux servir les personnes sourdes et malentendantes. Citation : Au début, j'étais un peu anxieuse parce que je pensais que je n'allais pas bien comprendre et que j'allais mal répondre aux questions. Je me demandais s'ils allaient parler devant mon visage, ellipse, pour que je puisse lire sur les lèvres, fin de l'ellipse, ou si je devais leur dire que je suis malentendante, vu que je ne suis pas toujours à l'aise avec ça. Mais ils ont pris la peine de communiquer clairement et de s'assurer que j'avais bien compris. Fin de citation. V. Defray Francesca Morales, 19 ans, a rencontré des policiers du service de la police de la ville de Montréal pour la première fois l'an dernier dans le cadre d'un projet de jumelage entre des personnes de différentes communautés malentendantes et des policiers. L'agente, Amélie Gariup-Costa, 33 ans, qui allait devenir le binôme de Wedafray, confie avoir elle aussi été un peu stressée. Citation: notre première rencontre a eu lieu par visioconférence. Je ne savais pas comment elle allait pouvoir me comprendre. Je me demandais ce que je devais faire pour m'adapter. Fin de citation. Ses doutes se sont rapidement envolés lorsqu'elle a constaté que Wedafray lisait sur les lèvres et qu'elle pouvait avoir une conversation fluide avec elle. Au fil du temps, elles ont développé une belle amitié. Citation: on est proches, on se dit beaucoup de choses, on se fait confiance. Confie Wedafray. Au-delà des liens privilégiés qu'elle a développés avec Wedafray, c'est une expérience communicationnelle que l'agente a acquise et qu'elle transmet à ses collègues. Dans les rencontres de groupe avec les participants du projet pilote, moment qui était particulièrement stressant pour Wedafray, la policière a pris le temps d'expliquer les besoins particuliers de son amie pour que celle-ci puisse participer pleinement aux discussions. Cela a eu un impact également sur sa façon de travailler pour porter attention aux petits indices. Citation: quand je vois une personne qui ne répond pas ou qui ne semble pas comprendre, je vais regarder, ellipse, si elle a un appareil, fin de l'ellipse. Sinon, je m'assure qu'on a un contact visuel, que ma bouche n'est pas obstruée, d'articuler pour que la personne soit capable de lire sur mes lèvres. Ce sont des petites choses qui rentrent dans ton quotidien sans que tu t'en rendes compte et qui peuvent tout changer. Fin de citation. Besoin dans la communauté. C'est tout nouveau que les personnes sourdes et malentendantes participent à des programmes comme celui-ci du SPVM, explique Lucino, directrice générale du Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes. C'est elle qui est allée frapper à la porte du SPVM il y a quelques années. Citation: on avait écho par nos membres d'un certain manque de confiance envers les policiers. La communauté ne se sentait pas à l'aise, ellipse. Certains individus se sentaient victimes de discrimination et ce n'était pas le cas. Il fallait régler ce climat-là, explique-t-elle, fin de citation. Autre citation: c'est un problème d'accessibilité linguistique à la base, précise-t-elle. Les personnes sourdes ne comprenaient pas nécessairement les interventions policières et ça créait un sentiment de stress et d'anxiété au sein de la communauté. Fin de citation. Au service de la police de la ville de Montréal, on avait compris, citation, qu'il y avait peut-être des façons de faire à modifier, reconnaît le commandant Jean-Sébastien Marcotte de la Division de la prévention et de la sécurité urbaine. Depuis, le SPVM participe aux séances de la table de concertation sur les interventions policières du Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes et développe avec l'organisme de nouveaux outils pour les personnes sourdes et malentendantes. Il travaille notamment sur un logigramme pour définir les procédures policières et sur un lexique pour traduire le vocabulaire lié aux interventions dans la langue des signes québécoise. On tente aussi d'instaurer de nouveaux réflexes chez les patrouilleurs, un peu comme le fait l'agente Gariup-Costa. Le commandant Marcotte donne l'exemple de policiers qui interceptent un véhicule. De façon systématique, c'est ce qu'on leur enseigne à l'école de police, Ils vont se placer parallèlement au véhicule dans l'angle mort du conducteur. Citation, « Mais si la personne ne peut pas lire sur nos lèvres, elle ne peut pas comprendre pourquoi on l'a intercepté », explique-t-il. C'est important que les policiers comprennent ça. Une fois qu'on a évalué l'habitacle et le risque, le policier peut se tourner vers la personne pour la regarder. Mais il n'y a pas de policiers qui vont faire ça à la base. Fin de citation. Le principal défi reste toutefois l'accès à un interprète officiel pour les personnes qui s'expriment dans la langue des signes québécoise, constate le commandant. Contrairement aux enquêteurs qui vont y avoir recours sur une base plus régulière, les patrouilleurs qui vont répondre à un appel au domicile d'une personne sourde vont souvent se fier aux proches pour traduire. Or, ceux-ci n'ont pas nécessairement les compétences ni le recul pour le faire, étant parfois impliqués eux-mêmes dans la situation. Citation, « Est-ce qu'on va vraiment intervenir de façon adéquate si on n'a pas toute l'information? » Ça se peut qu'on ne procède pas à une arrestation parce qu'on n'a pas l'information complète. Est-ce qu'on laisse la personne à risque? Ce sont des considérations auxquelles on pense comme organisation, ellipse, et qui nous mènent à, fin de l'ellipse, revoir nos façons de faire. Fin de citation. Pour cette raison, le SPVM veut, citation, encadrer l'utilisation des interprètes et obliger les policiers à la maximiser. Fin de citation. La collaboration commence à porter ses fruits, soutient Mme Nau, qui constate que les membres de la communauté sont, citation, déjà moins sur leur garde. Fin de citation. Même si les changements sont longs à venir dans une grosse organisation comme le service de police de la Ville de Montréal. Elle se réjouit aussi de voir que d'autres corps policiers veulent se joindre à la table de concertation. Citation, « Les enjeux sont pareils ailleurs », dit-elle. « Montréal est donc notre plateforme test. Si ça se peut ici, ça va se pouvoir ailleurs. » Fin de citation.
Le jeu autonome, comment accompagner l'enfant sans le diriger. Un texte commandité paru le 1er avril 2026 dans la presse. Il est 17h30, vous tentez de terminer la préparation du souper et votre enfant vous répète « Je ne sais pas quoi faire, viens jouer avec moi ». Jouer seul ne va pas toujours de soi pour les enfants. Le jeu autonome est pourtant essentiel à leur développement. Bonne nouvelle, cette autonomie se construit avec du temps et un accompagnement bien dosé. Le jeu autonome, c'est quoi au juste? Aussi appelé jeu libre, il désigne les moments où l'enfant choisit lui-même à quoi il joue, comment et pendant combien de temps, sans consigne ni objectif imposé par l'adulte, d'après ce que résume « naître et grandir ». Pas besoin d'un scénario élaboré, une boîte devient une maison. Un coussin est un bateau et l'histoire se construit au fil du jeu. Pourquoi certains enfants ont-ils du mal à jouer seuls? Parce que jouer seul demande des compétences. Imaginer, choisir, persévérer, tolérer l'ennui ou la frustration. Tout ça n'est pas inné, mais s'apprend et se développe. Certains enfants sont par ailleurs habitués à être constamment stimulés, que ce soit par les écrans, les activités organisées ou les interventions rapides des adultes. Dès que le cadre disparaît, il est possible qu'ils se sentent démunis. Quel est le rôle du parent? Ce dernier ne doit pas se transformer en animateur ni en arbitre. Son rôle consiste surtout à créer les conditions, à observer et à intervenir avec parcimonie. C'est d'ailleurs la posture que recommande le ministère de l'Éducation du Québec lorsqu'il reconnaît et encourage le jeu libre dans le milieu de l'éducation préscolaire. L'adulte accompagne l'enfant en observant, en étant à l'écoute et en intervenant de manière ponctuelle selon les besoins qui émergent du jeu. Un regard, un mot encourageant ou une question ouverte suffisent souvent à relancer le jeu. Comment aider son enfant sans jouer à sa place? Allez-y d'abord petit à petit. 5 ou 10 minutes de jeu libre, c'est déjà beaucoup pour commencer. L'environnement a aussi toute son importance. Des objets simples comme des boîtes de carton, des figurines, des bouts de tissu, des blocs ou des crayons laissent plus de place à l'imagination que des jouets très structurés qui dictent déjà quoi faire. Et surtout, il faut accepter de ne pas intervenir trop vite. Un moment d'ennui, parfois inconfortable à observer pour un parent, est souvent le point de départ du jeu. Naître et grandir rappelle d'ailleurs qu'il faut généralement au moins 15 minutes pour qu'un enfant entre pleinement dans son jeu. Que faire quand l'enfant se décourage? Plutôt que de proposer une solution, renvoyez-lui la balle. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça? Ou as-tu une idée pour continuer ton jeu? L'objectif n'est pas qu'il joue le plus longtemps possible, mais qu'il apprenne à chercher une solution par lui-même. Le jeu libre ne s'enseigne pas. Il se construit à force d'essais, d'ennuis et de persévérance. Et à l'extérieur, est-ce plus facile? Souvent, oui. Dehors, l'espace s'ouvre, le corps bouge davantage et l'imaginaire suit. Une branche devient une épée ou une baguette magique, une roche, un sommet à conquérir. Grimper, courir, explorer, se lancer des défis, tout ça nourrit aussi la confiance et l'autonomie des enfants, comme le souligne la Société canadienne de pédiatrie. Jusqu'où laisser le risque entrer dans le jeu? Les spécialistes distinguent le danger qu'il faut éliminer du risque qui fait partie de l'apprentissage. Se salir, tomber sans se faire trop mal ou tester ses limites aide l'enfant à mieux connaître ses capacités. Le rôle de l'adulte dans ce contexte n'est donc pas de tout contrôler, mais plutôt de sécuriser l'environnement et d'ajuster sa supervision. C'est dans cet équilibre entre vigilance et lâcher prise que le jeu libre peut pleinement jouer son rôle. À retenir, le jeu autonome se cultive avec du temps, de l'espace et une présence adulte discrète. En laissant l'enfant chercher, essayer et persévérer, vous soutenez une autonomie qui se construit bien au-delà du jeu. C'était le jeu autonome, comment accompagner l'enfant sans le diriger. Un texte commandité paru le 1er avril 2026 dans la presse. Texte d'opinion. Jouer des tours. La presse. Recherche Francine Thériault. Pourquoi jouer des tours le 1er avril? Un texte commandité paru le 1er avril 2026 dans la presse. En cette journée, les câlins d'enfants cachent parfois des poissons de carton et les nouvelles extravagantes appellent à la vigilance. Les origines exactes du poisson d'avril demeurent un mystère et ses coutumes varient considérablement d'une culture à l'autre. Selon une théorie populaire, le poisson d'avril se répand en France à la fin du XVIe siècle après le devancement du Nouvel An au 1er janvier. Vrai ou faux? Vrai. Cette théorie veut qu'après l'adoption progressive du calendrier grégorien en 1582, certaines personnes aient continué à célébrer le Nouvel An au printemps comme autrefois. Elle serait alors devenue la cible de plaisanteries le 1er avril. L'expression « poisson d'avril » apparaît dans la littérature depuis le XVe siècle. Vrai ou faux? Vrai. Dès 1466, un poème de Pierre Michaud désigne ainsi un jeune garçon portant les lettres d'amour de son maître. « Et s'il n'y a ni danger ni péril, mais j'en ferai votre poisson d'avril. » Le livre de la diablerie « Des lois d'Amerval » daté de 1507 reprend pour sa part l'expression en référence à une personne crédule. « Maquereau infâme de maint homme et de mainte femme, poisson d'avril. » Les origines du poisson d'avril remonteraient à une fête grecque du 5e siècle, l'Hilaria. Vrai ou faux? Faux. C'est en fait dans la Rome antique que se déroule ce festival religieux de plusieurs jours en l'honneur de la déesse Cybèle. Les célébrations printanières comprennent des mascarades où, sous le couvert de leur déguisement, les fêtards s'amusent à taquiner les autres, incluant parfois certaines figures d'autorité. Ce n'est que dans les pays francophones que le poisson d'avril est associé au poisson. Vrai ou faux ? Faux. Bien que la coutume de coller un poisson de papier dans le dos d'une personne à son insu soit surtout répandue en France, en Belgique et au Québec, elle existe aussi ailleurs. L'Italie fête le Pecce d'Aprile de façon semblable, tout comme la Flandre, où la langue officielle est le néerlandais qui a son aprilvis. En Suède, la référence au poisson se retrouve plutôt dans l'expression « April, April, din dumasil ». Avril, avril, pauvre hareng, qui conclut une farce réussie. En Écosse, l'équivalent local du poisson d'avril dure 2 jours. Vrai ou faux ? Vrai. Le 1er avril marque Hunt the Gowk Day, le jour de la chasse au coucou. Une journée où des personnes crédules sont envoyées en missions inutiles ou se voient raconter des faussetés. Les tours se poursuivent le lendemain lors du Tailey Day, la journée de la queue, où il est coutume d'apposer une fausse queue ou un papier indiquant « bottez-moi » au derrière des gens, à leur insu. Au Royaume-Uni et dans le Canada anglais, la coutume du poisson d'avril encourage à ne jouer des tours qu'en avant-midi. Vrai ou faux ? Vrai. Cette règle d'étiquette typique des pays du Commonwealth est mentionnée dans un journal britannique du XIXe siècle et continue d'être observée par tradition. Une personne qui tente un vilain tour après les 12 coups de midi devient elle-même le poisson de la journée. Le 1er avril 1957, un reportage de la BBC explique comment les cultivateurs d'un petit village d'Italie récoltent les spaghettis qui poussent dans les arbres. Vrai ou faux ? Faux. C'est plutôt dans un village suisse que les fausses images montrent comment les spaghettis sont soigneusement cueillis dans les branches, puis déposés pour sécher au soleil. Après la diffusion, la chaîne de télévision a reçu des centaines d'appels d'un public curieux d'apprendre comment cultiver ses propres arbres à spaghettis. Cet extrait est aujourd'hui considéré comme l'un des plus célèbres canulars de la télévision. Il rappelle l'importance de garder un esprit critique, surtout le 1er avril. C'était « Pourquoi jouer des tours le 1er avril ?» un texte commandité paru le 1er avril 2026 dans la presse.